frère, j'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait d'accord.
Moi, c'est André de Mbujimayi, au Kasai Oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et bienvenue dans Parole aux auditeurs qui vous propose ce nouveau numéro. Après l'adresse du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à la Nation, la tension est montée d'un cran à l'Assemblée nationale. Hier et avant-hier, les échauffourées ont eu lieu dans l'hémicycle du Palais du Peuple entre les partisans du FCC et ceux du CASH. Un nouveau bureau a été installé depuis hier au cours de la plénière convoquée par le secrétaire général à l'Assemblée nationale pour examiner la pétition sur la destitution du bureau Mabunda. Certains observateurs estiment que le pays tend vers une crise institutionnelle. D'autres, par contre, pensent que c'est une crise plutôt politique. Alors, qu'en pensez-vous? Vous pouvez participer à cette émission en composant les 081 890 63 30 ou encore les 081 890 49 69. Vous avez également la possibilité d'interagir sur notre page Facebook. Jean-Claude Siala et Marcel Ngombombala concourent à la production de cette émission réalisée et coordonnée par J.R. Lungembo Luabung Angie. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Professeur Bob Kabamba, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes chercheur à l'Université de Liège, vous avez suivi l'actualité et nous soulignons que vous avez été le co-rédacteur de notre actuelle constitution. Est-ce qu'on peut dire qu'après l'adresse du chef de l'État, nous tendons vers une crise? D'autres parlent, que d'autres qualifient d'ailleurs d'une crise institutionnelle, et ce que les autres, d'autres parlent, certaines ne l'appuient pas.
Oui, donc quand on regarde un peu ce qui se passe, il faut parler plutôt d'une crise politique plutôt que d'une crise institutionnelle. Pour qu'on puisse parler d'une crise institutionnelle, il faudrait qu'il y ait des institutions qui fonctionnent en dehors des textes, en dehors de la Constitution, en dehors des textes qui les régissent et qui définit en fait ce que chaque institution peut faire et ne peut pas faire. Si une institution commence à prendre des décisions qui vont à l'encontre de textes tels qu'ils ont été établis, là, effectivement, on pourrait parler d'une crise institutionnelle. Dans le cas présent, puisqu'il s'agit en fait d'une lutte politique, dans le sens où on déploie des mécanismes, ce qu'on appelle des actions politiques, pour arriver à asseoir un pouvoir, on parle plus de crise politique plutôt que de crise institutionnelle, comme certains veulent le faire croire.
Alors comment l'adresse du chef de l'État pourrait susciter de telles tensions?
Ben, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire que nous sommes dans ce qu'on appelle un jeu politique. Et un jeu politique, lorsque l'on donne des faits, les faits ont ce qu'on appelle des conséquences et donnent des outputs. Ça veut dire donnent un peu des conséquences. Et ces conséquences sont de divers ordres. Si ce sont des faits qui valident mes souhaits, je dois soutenir. Si ce sont des faits qui ne sont pas vis-à-vis de ce que moi je veux, je ne vais pas soutenir. Et alors vous avez une tension qui est palpable, parce que tout simplement, il s'agit quand même de la possibilité de pouvoir changer le contrôle d'un organe, d'une institution qui est très importante dans l'architecture institutionnelle et de même dans l'architecture politique du pays. Et alors à ce moment-là, effectivement, on a cette tension puisqu'il s'agit quand même d'une institution très importante dans la gestion, même dans la conception et de la validation et gestion de tout un pays. C'est pour ça que ça suscite autant le débat et autant de passions des uns et des autres, des pour et des contre, etc., etc.
Et le chef de l'État est à la recherche d'une nouvelle majorité. Et hier, nous avons vu, au niveau de l'hémicycle, l'installation d'un nouveau bureau et la présence de 279 députés et qui désavouent les bureaux au Mabunda. Est-ce qu'on peut dire que, finalement, le chef de l'État est en train d'atteindre son objectif?
Quand on regarde, il suit la procédure. Il respecte les textes tels que la procédure doit se passer. Pour arriver, puisqu'il veut avoir une nouvelle majorité, en sachant très bien que cette majorité doit être constatée dans l'institution Assemblée nationale. Il va de soi qu'il peut, en tant que politique, impulser donc une action pour arriver à ce contrôle-là. Et cette action passe nécessairement d'abord par plusieurs façons. Il y a plusieurs façons. Il y a le contrôle judiciaire. Donc, s'il y a des propres problèmes, par exemple, que le bureau aurait commis des fautes ou des actes illégaux, il y a des possibilités de les faire condamner judiciairement. Donc, il y a ce qu'on appelle le contrôle juridictionnel. Mais il y a aussi ce qu'on appelle l'action politique. L'action politique pour arriver à des objectifs. Donc, ici, de manière très claire, ce que l'on voit, c'est que le par rapport au message, ben, il essaie maintenant de mettre en œuvre le message qu'il a donné pour arriver à avoir cette majorité. Or, la première étape, effectivement, de pouvoir atteindre cet objectif, c'est d'abord de changer le bureau pour espérer, puisque le bureau, vous devez vous rendre compte que le bureau de l'Assemblée va de pair avec la constitution du gouvernement, puisque lorsque l'on veut arriver à avoir cette nouvelle majorité, c'est l'objectif d'avoir un gouvernement qui est issu de cette Assemblée et qui va mettre sa responsabilité en jeu devant cette Assemblée. Et il est important d'avoir effectivement le contrôle de cette institution. D'où effectivement les différentes actions qui sont en train de mener dans ce sens-là. Quand on est député, c'est tout à fait normal, c'est dans le respect des textes, puisque les textes sont clairs au niveau du règlement d'ordre intérieur de cette Assemblée. Et donc là, on est en train de suivre la procédure telle qu'elle doit se passer.
Alors c'est le secrétaire général à l'Assemblée nationale qui a convoqué cette plénière, qui a accouché d'ailleurs d'un nouveau bureau avec les doyens de l'âge et les plus jeunes. Est-ce qu'on peut dire que finalement c'est constitutionnel ce qui s'est passé hier?
Ben, tout à fait, parce que ce qui est prévu en fait par les textes, lorsqu'il y a une pétition contre le bureau, effectivement, c'est-à-dire qu'on ne veut pas que le bureau soit juge et parti. C'est-à-dire, par exemple, si moi, je veux vous accuser, quelque part, il ne faut pas que ce soit vous qui soyez mon juge. Ça doit être quelqu'un d'autre qui juge de ce que moi, je vous reproche. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alors, la procédure, elle est très claire en disant, lorsqu'on vous reproche quelque chose, vous ne pouvez pas être juge et parti. Vous devez vous mettre de côté. Alors, pourquoi, quand même, il s'agit d'une institution importante, on ne peut pas laisser une institution importante sans savoir donc que ça puisse pas continuer à fonctionner. Alors là, on prend des personnalités qu'on ne connaissait pas, parce qu'au départ, on ne sait pas le texte prévoit, on prend le plus âgé et les deux plus jeunes pour assister et pour pouvoir mener le travail presque de jugement, de voir effectivement si ce qui est reproché passe. Alors là, on passera au vote, et le vote, c'est ce qu'il va faire. Le vote, soit va dire, confirmer effectivement que le bureau de l'Assemblée tombe, ou soit le bureau, il reste. Et donc là, il y a encore une décision qui doit être prise le jeudi, je pense, parce que j'ai pu lire au niveau des médias sur la convocation de la prochaine plénière.
Alors, avant d'ouvrir les standards, vous avez dit, il s'agit là d'une crise politique et non une crise institutionnelle, mais lorsque on observe un scandale du genre, disons, deux partis, deux camps, le FCC et les CASH, dans des échauffourées, dans une bagarre rangée, est-ce qu'on peut pas dire qu'il y a une crise au sein de cette institution?
En fait, lorsque vous voyez effectivement les batailles rangées, etc., vous savez, il y a déjà dans beaucoup de parlements au monde où on assiste à ce genre de batailles, il y a même eu des morts, des fois il y a même des bagarres. Là, ce sont des faits infractionnels qui dépendent beaucoup plus de la police et du parquet qui peuvent intervenir pour arrêter les uns et les autres qui sèment de troubles au sein donc d'une institution. Là, c'est vraiment des frais infractionnels qui mériteraient, de mon point de vue, d'être poursuivis et sanctionnés par les autorités policières et judiciaires.
Voilà. Alors, professeur, nous vous gardons encore en ligne. Il est temps d'ouvrir les standards et d'accueillir les auditeurs, parce que la population suit de près cette actualité et aimerait aussi placer un mot par rapport à cette problématique, par rapport à cette question. 081-890-6330 ou encore le 081-890-4969 pour votre intervention directe.
L'information se retrouve aussi tout le jour sur radiookapi.net. Actualité, sport, environnement, économie, culture. Réécoutez les journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Chaque matin, lisez aussi la revue de la presse congolaise. Radiookapi.net, votre site d'info sur le Congo. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser.
Parole aux auditeurs.
Amos, vous êtes à Bukavu. Bonjour Amos.
Ah monsieur, je suis avec vous.
Alors, un nouveau bureau a été installé depuis hier au cours de la plénière convoquée par le secrétaire général à l'Assemblée nationale pour examiner la pétition sur la décision du bureau Mabunda. On sait que tous ces faits sont arrivés juste après l'adresse du chef de l'État. Est-ce qu'on peut parler déjà d'une crise au sein de l'hémicycle du Palais du Peuple?
Tout à fait, tout à fait. Hier, comme vous avez à le dire dans le sujet, la RDC est en train d'aller tout droit vers une crise institutionnelle, mais aussi vers une crise politique, les deux crises à la fois. Je tiens à encourager les analyses du professeur qui dit que non, au moment où le bureau de l'Assemblée nationale était déjà mis en cause, et il y a une pétition contre ce bureau, c'est une crise lui qui devrait examiner cette pétition, pour ne pas être jugé parti. Mais la question que la personne est en train de se poser, c'est de savoir, est-ce qu'il y a un acteur politique qui réfléchit l'intérêt du peuple congolais. Je pense que tous les hommes politiques, tendances confondues en RDC, personne ne peut pas tromper le peuple. Parce que, comme nous avons dit dans les émissions précédentes, l'État est au pouvoir, l'État chez l'IDP, l'IDP c'est l'FCC, l'État chez l'FCC. Chaque État se bat pour contrôler les institutions clés du pays, et cela pour se rassurer de la victoire aux élections prochaines. Et non, le peuple congolais, il ne doit pas se casser derrière le peuple. Moi, j'interdis à tous nos hommes politiques, même la présidence. Personne ne doit se cacher derrière le peuple qui se bat pour les intérêts du peuple. Parce que si du moins, il se battait pour les intérêts du peuple congolais, on devait voir les deux ans bientôt, le président est au pouvoir. Qu'est-ce qu'il a eu à faire pour les attentes du peuple congolais? Je prends la situation de l'insécurité à l'est du Congo, où le carnage continue à Beni. Je prends l'éducation de nos enfants. Je prends la situation socio-économique du pays. Les dollars aujourd'hui à plus de 2000 francs. Qu'est-ce qu'il devait montrer au peuple congolais que réellement la présidence se bat pour changer la médiocrité, ne fait pas le pouvoir sortant? Rien. Même à la présidence où il n'y a personne du SCC, où il n'y a que les gens qui cachent. On parle d'un dépassement budgétaire. Est-ce que c'est le cas qui est encore venu orchestrer le dépassement budgétaire au niveau de la présidence? Non. Et c'est honteux pour la RDC de constater aujourd'hui qu'au lieu qu'à l'Assemblée nationale, il y ait un débat démocratique, que les députés travaillent sur les questions cruciales du peuple congolais, on commence à se changer de coup. Ça fait la honte. Ça fait la honte vraiment. Et moi, je pense que même ceux qui sont en train de se battre pour qu'ils récupèrent le contrôle de l'Assemblée nationale, avec cette manière de faire, ils n'aideront jamais le peuple congolais à rien. Sincèrement, hier, apparemment, nous, peuple congolais, nous n'aurions pas la chance. Parce que ce qui se passe au pays aujourd'hui, c'est difficile à comprendre. Voilà pourquoi je me remets au peuple congolais, de comprendre qu'il reste le seul souverain primaire, et le seul qui doit se libérer. Et non, penser qu'il y a un acteur politique congolais qui va aider
voilà.
Le peuple congolais.
Alors, Amos, je retiens que pour vous, vous estimez que la crise. Voilà, on se retrouve là devant deux crises institutionnelles et politiques en même temps. Je crois que le professeur pourrait nous éclairer là-dessus. Et nous prenons Franck de Vienne. Franck, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, mon ami Gérard. Bonjour au prof l'invité. Bonjour à mon ami Amos qui venait de précéder.
Vous avez la parole, Franck. Quel est votre avis?
Par rapport à ce que le prof venait de dire, moi personnellement, je trouve que nous sommes là déjà en face de deux crises. Parce que si nous devons encore réanalyser ce qui se passe de plus près de l'intérieur, on ne peut plus parler de la crise institutionnelle sans faire allusion à la politique et vice-versa. On ne peut pas parler de la crise politique en nous éloignant de la fonctionnalité de ces institutions étatiques qui canalisent les aspirations citoyennes du politique à la République démocratique du Congo. Je vais m'expliquer en ceci. Déjà, si nous devons relire les discours du 23 octobre et les discours du 6 décembre, les deux discours traduisent déjà le malaise, l'existence de malaise et la persistance de ces malaises qui existent au sein de la coalition. Et à travers la manière de présenter ces malaises, les responsabilités se jettent mutuellement. Selon les uns, c'est le blocage. Selon les autres, il n'y a pas de blocage. Alors, au sein de la coalition, déjà, il y a des malaises. Donc, c'est pour dire qu'il y a déjà une crise politique à ce niveau-là, une crise idéologique politique. Et maintenant, si nous voyons les ramifications que ce malaise est en train de prendre, il y a des effets d'entraînement, mon ami Gère. Du moment où nous savons tous que le Premier ministre n'a plus la confiance manifeste du chef de l'État, du moment où nous constatons que les deux chambres parlementaires ne soutiennent plus visiblement la politique du chef de l'État, et quand nous devons maintenant réanalyser et revoir la manière dont se développe la situation, donc personnellement je trouve que on ne peut plus parler de la crise seulement politique, mettre à côté les institutions. On ne peut pas non plus voir seulement la crise institutionnelle sans faire allusion au point de départ, le dynamisme de la politique, mais nous sommes là en face des deux. Mais la question qui peut intéresser, et la question qui nous intéresse, nous citoyens congolais, c'est seulement peut-être de savoir à qui profite toute cette instabilisation. Est-ce que ça profite vraiment au peuple, ça profite au social des citoyens, ou c'est seulement pour le positionnement? Et tel que nous connaissons la manière de faire de la politique chez nous, ça ne profite qu'aux hommes politiques qui veulent se repositionner. Les uns craignent de tout perdre, et les autres se disent maintenant c'est notre tour, alors nous devons tout faire. Et si nous avons encore des mémoires bonnes, nous pouvons aussi nous souvenir, avant même les élections, il y avait un éminent membre de la majorité présidentielle de l'époque qui avait dit, la vidéo circule encore jusqu'à aujourd'hui, imaginez-vous que Chadar puisse perdre les élections. Qu'est-ce que nous serons? Et je crois que c'est une exclamation qu'on doit plus prendre de manière désintéressée. Cette phrase-là, quoique courte, ça traduit déjà la crainte qu'il y a de l'autre côté et comment ça peut se jouer. Et je crois que c'est au peuple congolais maintenant d'ouvrir l'œil et le bon. Est-ce que les uns et les autres se battent vraiment pour améliorer le social ou c'est seulement pour se satisfaire? Je crois que c'est de ce côté-là que nous pouvons encore canaliser nos aspirations pour voir comment ça va se développer.
Merci beaucoup, Franck, d'avoir appelé de Vienne. Et Sylvain, vous êtes à Magui. Bienvenue dans Parole aux auditeurs, Sylvain.
Oui, merci beaucoup, Gérard. Je salue tous les auditeurs, mais je salue aussi tous les Congolais.
Alors, vous avez suivi vos prédécesseurs. Est-ce qu'il y a crise institutionnelle après l'adresse du chef de l'État?
Il y a d'abord un problème, c'est que depuis que nous sommes allés aux élections de 2018, il me semble que la coalition mise en place fonctionne sur base d'une hypocrisie politique sans précédent. Ce qui fait que des animateurs qui sont à la tête des institutions n'ont pas confiance en eux-mêmes et ils n'ont pas la même vision, ça c'est d'abord naturel. Ce qui fait qu'il y a un problème de confiance entre les acteurs. Donc vous avez vu des gens même avant les consultations et même avant le discours du chef de l'État, des gens qui peuvent refuser d'écouter un président de la République, des personnes qui peuvent se confier mieux à leur formation politique ou à leur mouvement politique en défaveur de l'État. Des hommes qui se comportent plus comme des militants d'une formation politique que comme des hommes d'État. Donc, il y a un problème, ça c'est vrai, lorsque vous regardez des gens qui sont censés porter l'image d'une nation, se battre dans l'espace de la démocratie, dans l'espace public, tel que le palais du peuple. À quel type de gens nous avons allusion? Et aujourd'hui, la refondation même, ou même la recomposition même de la majorité parlementaire dont le chef d'État fait allusion. Ceci est une preuve des crises qui existent entre les institutions, puisqu'il ne faut pas oublier la système constitutionnel qui est le nôtre. Il faut que les acteurs s'assument par rapport au bien de la population. Et malheureusement, quand vous avez des personnes qui plus se comportent à des militants de leur formation politique, ils se comportent à des disciples de leur maître qui les ont formés, et ils mettent à côté les aspirations du peuple, Donc ça pose un problème. Moi je dis que les élections ratées de 2018 ont préparé une base de crise de confiance, de la déconfiture de confiance entre les alimentaires politiques.
Oui, mais Sylvain, est-ce que vous soutenez qu'il y a crise politique ou bien vous entrez dans le camp de ceux qui disent absolument il y a crise institutionnelle?
Il y a au même moment crise institutionnelle, au même moment crise politique. N'oubliez pas, tout reste égal par ailleurs.
Mais parce que là, nous nous retrouvons maintenant dans une confusion totale.
Non, les institutions politiques sont des courroies de la vie politique.
Oui, mais quelles sont les institutions qui sont... quelles sont ces institutions qui sont en conflit?
Mais je viens de vous dire ici, lorsque un premier ministre fait une déclaration qui ne raconte pas la vision ou la volonté du chef de l'État. Donc, les gouvernements, même avec l'institution présidente, ne sont pas en harmonie. Mmh. L'Assemblée nationale avec l'élection présidente ne sont pas à bonne harmonie. On peut dire aujourd'hui oui, puisque le gouvernement est ici de l'Assemblée nationale et que ces deux élections peuvent avoir une collaboration nette, puisque l'FCC aujourd'hui qui est majoritaire au gouvernement a le même poids au niveau de l'Assemblée nationale. Les décisions, il n'y a pas de problème. Le Sénat aussi, avec le gouvernement, il n'y a pas assez de problèmes, puisque, en fait, le résultat des élections de 2018 a une configuration que le FCC possède de la majorité dans toutes les institutions, à part l'institution présidente de la République. Mmh. Donc, entre le Parlement, disons d'une manière générale, composé ici de l'Assemblée nationale et du Sénat, et le gouvernement, il n'y a pas assez de soucis. En attendant, l'institution squelettique qui est ici des élections 2018, et qui est ici chapeauté par le président Félix, est en conflit avec toutes les autres institutions. Le gouvernement, le Sénat, l'Assemblée nationale sont en conflit permanent avec l'institution présidente. Et aller aussi au niveau de la justice. Aujourd'hui, voilà. On nous dit que c'est à cause de la nomination des juges de la Cour constitutionnelle
que tout est parti.
Il y a conflit.
Merci beaucoup, Sylvain.
Plus que tout simplement, il y a des gens qui ont déjà mis une. En fait, ils ont configuré les institutions par rapport à leur boulimie politique. En fait, que l'élection président est des points avec eux. Donc, il y a crise entre toutes les autres élections contre l'élection président de la République. Et ça, il faut le dire, que ça a été mis à dessein par l'FCC, après avoir géré 18 ans. Et donc, une élection telle que l'élection président a conflit avec toutes les autres, rien ne marche. Il y a crise institutionnelle et crise politique au même moment.
Merci beaucoup, Sylvain, d'avoir appelé des Magui. Alors, on revient à vous, professeur Bob Kabamba. Sylvain, Amos et Franck de Vienne soutiennent qu'il y a deux crises en même temps.
En fait, parce que tout simplement, je pense que c'est une question de connaissance des textes. Ce qui est en train de se passer, il s'agit clairement, dès le départ, comme le dernier auditeur vient de le dire, dès le départ, il y a en fait un accord politique entre deux familles politiques pour pouvoir digérer, pour avoir géré le pays. Lorsque ces deux acteurs, sur base justement du discours du chef de l'État, constate que son partenaire ne va pas dans le sens que lui doit mener la politique en tant que président de la République, ils ne sont pas d'accord entre eux, mais s'ils ne sont pas d'accord entre eux, qui est justement le problème, qui est un problème politique, en disant « je dois faire toute une série d'actions pour la population », comme l'a dit l'auditeur de Bukavu, mais avec avec mon partenaire, je me rends compte que je ne sais plus le faire. Alors, si je ne sais plus le faire, je me défais de mon partenaire. Alors, je me défais de dans notre accord avec, dès le départ, nous étions mis d'accord que nous allons diriger ensemble. Mais maintenant, si je me défais de mon partenaire, mais ce partenaire continue à diriger certaines institutions, et moi, ce que je veux, c'est de pouvoir, justement, que le président veut contrôler l'institution, ici, de manière claire, c'est l'Assemblée nationale, puisque c'est à l'Assemblée nationale que on arrive à consolider les accords politiques par la constitution d'une majorité parlementaire. Et donc, ce qui est en train de se passer, si ce n'était pas dans le respect des textes, c'est-à-dire, par exemple, que le président de la République, au lieu au lieu que, par exemple, les députés intentent une pétition pour déchoir le bureau, il prend par exemple une ordonnance en disant « oui, je prends une ordonnance qui défait le bureau du Parlement », là, effectivement, on parlerait d'une crise institutionnelle puisque le président de la République s'immisce dans le fonctionnement clair d'une institution. Là, on parlerait de crise vraiment institutionnelle.
Oui, professeur, est-ce qu'en ce moment, est-ce que le chef de l'État a une marge de manœuvre pour démettre de ses fonctions les premiers ministres, par exemple?
Non, justement, les textes sont encore très clairs le président de la République ne peut pas démettre le premier ministre. C'est qu'il y a deux possibilités de démettre le premier ministre. Soit il démissionne, soit le Parlement lui retire la confiance que le Parlement lui a donné, ça veut dire lui retire la confiance qu'il lui a donnée au moment de son investiture par motion de défiance ou même par motion donc de défiance, par motion de défiance que ce Parlement peut déchoir un gouvernement. Et alors lorsque l'on déchoit le gouvernement, ce gouvernement reste quand même en place et jusqu'à ce qu'il y ait à nouveau un gouvernement qui va venir à l'Assemblée nationale présenter son projet et son projet doit être validé, donc il doit être accepté par le Parlement pour que permettre à ce gouvernement de pouvoir fonctionner. En fait, la légitimité du gouvernement ne vient pas du président de la République, la légitimité du gouvernement vient du Parlement. Et alors, si le président veut un nouveau gouvernement, il ne peut pas avoir un nouveau gouvernement sans avoir un Parlement acquis à sa cause. Et pour avoir un Parlement acquis à sa cause, il doit changer les majorités, et ça passe notamment par le changement de bureau. C'est pour ça il y a tout ce qui est en train de se passer. Donc le premier acte qui doit être posé, justement, c'est le changement de bureau tel que ça est en train de se passer. Maintenant, demain, est-ce que les parlementaires vont voter pour déchoir ce bureau et à ce moment-là ouvrir la voie pour un autre bureau? Et c'est ça que j'imagine qui est en train de se passer politiquement, pour essayer de voir si effectivement, après le changement de ce bureau, on pourra constituer un nouveau bureau qui va représenter la majorité que le président de la République attend et veut.
Alors, est-ce que, professeur, ce n'est pas là, disons, quand on regarde la démarche du chef de l'État depuis son discours du 23 novembre jusqu'à, disons, même après, c'est celui du 6 décembre, mais on se rend compte que, finalement, on se retrouve dans une révolution politique.
Pas vraiment une révolution politique. On peut pas dire vraiment c'est une révolution politique. En fait, c'est la politique. Normalement, c'est comme ça que la politique fonctionne. Et ça marche comme ça. Tout politicien, ce que vous devez vous rendre compte, monsieur Gier, tout politicien veut accéder au pouvoir. On n'est pas politicien pour devenir opposant. Le politicien qui fait de la politique pour devenir opposant, il fait de la politique, il est opposant parce qu'il n'a pas réussi à être au pouvoir. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Et tous les hommes politiques, quand ils font de la politique, c'est pour exercer le pouvoir. C'est pas pour pouvoir simplement être là sans rien faire. C'est exercer le pouvoir. Mais l'exercice de ce pouvoir ne se fait pas non plus n'importe comment. L'exercice de ce pouvoir se fait sur base de textes qui sont généralement la Constitution et des autres textes qu'elle est en train de faire. Sinon, on serait dans l'anarchie. Par exemple, un gouverneur serait amené à faire n'importe quoi, alors s'il ne fait pas en dehors de ce que les textes lui demandent de pouvoir le faire, et là, il mettrait l'institution en difficulté. Et donc ici, clairement, c'est ça la politique, en fait. Nous sommes véritablement dans un jeu politique. Et la politique, c'est comme ça que ça fonctionne normalement. Et lorsque vous pouvez même regarder dans beaucoup de pays où il y a ce genre d'événements, effectivement, vous avez des disputes, vous avez des échanges des fois très 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 virulents, mais il y a aussi, malheureusement, ça arrive aussi, c'est que ceux qui ne sont pas d'accord, au lieu de continuer à faire le jeu politique, et qu'est-ce qui se passe généralement aussi, ben, et vous avez aussi la guerre, et des fois ils déclarent la guerre. Souvenez-vous, en 1996, lorsque la guerre de la FDL a commencé, en fait, c'était en disant, oui, nous ne sommes pas d'accord avec la politique et le régime que Mobutu avait mis en place. Et pour pouvoir le mettre en place, nous ne pensons pas qu'il faut faire de la politique. La politique, c'est quoi? Ben, nous faisons la guerre, et cette guerre, c'est pour essayer de changer la politique que Mobutu avait mis en place. Et c'est comme ça que la rébellion avait justifié son action en 1996. Donc, de mon point de vue, c'est du jeu politique. Là où je suis tout à fait d'accord, par contre, avec les auditeurs, c'est en disant par rapport à la population. C'est-à-dire que la population, effectivement, quand elle assiste à ce genre de phénomène, de ce genre de fait, juge effectivement que les responsables qu'ils ont désignés, qu'ils ont élus pour les représenter, jugent que ces responsables ne sont pas dignes de pouvoir être responsables du fait qu'ils sont en train de se bagarrer, de venir aux mains au sein de l'Assemblée.
Des spectacles très désolés.
Dans ce contexte, alors, dans ce cas-là, il appartient à la population de pouvoir ne pas être d'accord avec ses représentants et aux prochaines élections, de ne plus
sanctionner
en disant, ben non, vous êtes des voyous, vous êtes bagarrés au sein d'une institution comme le Parlement, donc vous ne méritez pas d'être député. Voilà, du moins, ce que je peux vous dire, monsieur Gier.
Voilà. Alors, avant de passer de l'autre côté du standard, parce qu'il y a Machaka qui nous attend et Alain Bolodjoie, juste une question de curiosité. Quand nous jetons un regard sur l'exposé des motifs de la Constitution, on se rend compte que le constituant a même déjà défini les motivations qui ont milité à l'élaboration de cette loi fondamentale, notamment pour éviter des crises de légitimité à répétition. C'est pratiquement des crises qui pouvaient donner connaît aussi des crises institutionnelles ou encore des crises politiques. Et là maintenant, est-ce qu'on ne peut pas, comme le pensent certains, responsabiliser le régime passé qui n'a pas pu poser des jalons, respecter d'abord l'esprit et la lettre de cet exposé des motifs?
Vous savez, ça c'est une bonne question, parce que j'ai eu ces questions-là souvent en disant, puisque les autres violaient la Constitution, puisque les autres faisaient ça, moi aussi je peux le faire. Mais je pense que de vous à moi, si on veut revenir, entre guillemets, à avoir une société, état de droit, à avoir une société de justice, d'équité, comme le dit la Constitution, le plus simple de pouvoir avoir des institutions qui fonctionnent correctement, de mon point de vue, ce n'est pas violer les textes qui va permettre de le faire, c'est plutôt les respecter ces textes et montrer qu'on les respecte pour pouvoir arriver aux objectifs. Pour vraiment bien illustrer M. J.R., c'est-à-dire, par exemple, si on dit, le président de la République pouvait aussi envoyer l'armée, hein, il pouvait aussi envoyer l'armée à l'Assemblée en disant, ok, j'envoie l'armée, on met tout le monde dehors, etc., etc., et l'armée installe, par exemple, un nouveau bureau. Là, en fait, effectivement, ça aurait été, de manière très claire, sans ambiguïté, nous serons dans un cas de crise politique, crise institutionnelle. Mais la famille politique du chef de l'État dit, oui, nous avons initié une pétition, et cette pétition, nous voulons faire partir le bureau, nous devons respecter les textes. Qu'est-ce que disent les textes? Les textes disent de manière très claire, lorsqu'on attaque le bureau ne peut pas siéger sur une question où eux-mêmes sont remis en cause. Il faut qu'il y ait un bureau provisoire. Et ce sont les textes qui le disent, et on fait respecter ces textes-là, mm-hmm. en disant, ben oui, il faut qu'il y ait un bureau provisoire, c'est ce qui s'est passé. Alors, mais la suite maintenant, la suite, ça va être encore...
La police a escorté le nouveau bureau. C'est déjà un signal très fort. Oui. C'est la police qui a escorté le nouveau bureau.
Oui, c'est un signal très fort, puisque tout simplement, il y a des faits infractionnels qui sont en train de se passer. Et que lorsqu'il y a des faits infractionnels qui sont en train de se passer, il va de soi que les forces de l'ordre, c'est leur mission de pouvoir intervenir pour, entre guillemets, remettre de l'ordre. C'est pour ça qu'il y a des forces de l'ordre, c'est pour ça qu'il y a la police. Et je pense aussi que certainement qu'il va y avoir des poursuites par rapport à certaines personnes qui ont occasionné, par exemple, ce qu'on a vu avec la destruction des biens publics. Mmh. Là, ce sont des faits infractionnels qui doivent être poursuivis par le procureur et condamner ceux qui sont auteurs de la description de ces biens publics.
Voilà. Alors, professeur, on va accueillir d'autres auditeurs et puis on revient à vous pour poursuivre cette émission. Maître Machak, à vous, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, M. Gérard, bonjour à l'invité, M. le professeur, et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Quel est votre commentaire par rapport à la situation de l'heure?
Alors, par rapport à la situation de l'heure, M. Gérard, puisque vous savez, aujourd'hui, nous attaquons souvent aux conséquences, au lieu de savoir d'abord de s'attaquer aux causes. Vous savez, aujourd'hui, M. Gérard, les problèmes les plus capitaux dans notre pays, les gens transforment la politique en business et non en métier, puisque aujourd'hui, si vous regardez la majorité des députés qui sont là-bas, et même les ministres, ce ne sont pas des technocrates. Ils prennent aujourd'hui l'intérêt supérieur de leur tendance politique au lieu de faire passer d'abord l'intérêt général de la population. Puisque aujourd'hui, même si on cherche à changer les bureaux des bureaux du Parlement, ceux qui vont passer là-bas, M. Gérard, je ne crois pas s'ils vont toujours travailler pour l'intérêt de la population. Le conflit aujourd'hui, s'il y a le conflit, et la crise là, institutionnelle et consort, c'est la crise des intérêts. C'est les intérêts de ces plateformes là politiques. Ceux qui se retrouvent lésés, ils ne se retrouvent pas dans la gestion des biens de la République, ils s'opposent à ceux qui se trouvent aux commandes. Je ne crois pas aujourd'hui, M. Gérard, même si on changeait les bureaux, même si la majorité partait de l'autre côté, ils vont travailler pour l'intérêt.
Toujours avec les mêmes personnes. Merci beaucoup, Machaka. Alors, on revient à vous, professeur Bob Kabamba. Est-ce que l'histoire de l'année 60, des années 60 ne se répète pas?
C'est une très bonne question, M. Gérard. En fait, c'est sur base justement des événements des années 60 que on a essayé que avec le nouveau texte qu'il puisse plus y avoir ce genre de situation. Puisqu'on avait remarqué effectivement dans l'histoire constitutionnelle du Congo qu'il y a quand même toute une série d'obstacles et des problèmes qui ont été soulevés dans l'histoire. Et alors comment arriver à résoudre ces différents problèmes avec le nouveau
contexte, on a essayé justement à éviter qu'on puisse arriver à avoir des blocages. Et d'où la mise en place de toute une série de mécanismes, et que ces mécanismes qui permettent et qui peuvent permettre de puisse éviter d'avoir ce genre de situation. Par exemple, lorsque l'on regarde les rapports entre le président et le premier ministre, c'est que on oblige par exemple le président à travailler avec le premier ministre. Ce sont les deux qui sont responsables, qui sont responsables donc de la politique de la nation, de la politique donc du pays. Et c'est lui qui met en œuvre cette politique, c'est le gouvernement qui tire donc sa responsabilité, comme je vous l'ai dit, de l'Assemblée nationale. Et le président, lui, ne tire pas sa responsabilité de l'Assemblée nationale, mais il tire sa de l'élection au suffrage donc universel. Et donc on a essayé, dans la mesure du possible, dans le texte, qu'il y ait des ponts, qu'il y ait de mécanismes de collaboration entre ces deux pour éviter qu'il puisse y avoir une crise. Et alors, si vous essayez de regarder plus ou moins ce qui est en train de se passer, c'est que vous avez vu quand même que après le discours, le président de la République a reçu le premier ministre. Et alors, si on voulait parler d'une crise institutionnelle, par exemple, en disant, ben oui, le président de la République révoque le premier ministre, alors que les textes ne le disent pas. Là, nous serons véritablement dans une crise institutionnelle. Mais dans le cas présent, puisqu'on n'a pas eu la démission du premier ministre, et donc on ne peut pas dire véritablement, là, de l'autre côté, donc, il y a respect des textes, et il y a recherche de pouvoir qui puisse véritablement y avoir...
Alors nous avons vu dans les régimes passés, parce que le président Joseph Kabila avait la majorité, les problèmes ne se posaient pas, parce qu'il pouvait imposer au premier ministre ses volontés, et il n'y avait pas crise. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un contexte un tout petit peu différent et difficile, et ce qui nécessite, en tout cas pour les uns, qu'on puisse réqualifier ou repenser notre constitution.
Oui, ça, de manière très claire, c'est que lorsque vous dites ça, vous dites, vous avez raison. Le régime passé, c'est que tout simplement, toutes les institutions dont on est en train de parler étaient entre les mains du partisan, du président, de l'ancien président, du président honoraire. L'Assemblée, le Sénat, les gouverneurs, les différentes institutions para-étatiques, etc., etc. On était dans cette situation-là. Mais ça a été facilité puisque tout simplement il avait effectivement cette capacité d'avoir cette majorité et ce système qui lui permettait de contrôler l'essentiel. Malheureusement, pour les élections de 2018, les résultats ne sont pas ceux-là, et donc on arrive à une situation où il faut, de manière très claire, qu'il y ait collaboration. Mais s'il n'y a pas collaboration, dans ce cas-là, deux possibilités, l'action politique. C'est-à-dire, je ne suis plus d'accord avec mon partenaire, mais je cherche un autre. Peut-être l'autre sera meilleur. Maintenant, ici, est-ce que avec la nouvelle majorité, l'on va avoir un meilleur fonctionnement? Est-ce que ça sera différent? Puisque, comme l'a dit même l'autre auditeur, que les hommes politiques sont plus hommes d'affaires, entrepreneurs, businessmen, plutôt que politiques. Est-ce qu'on ne va pas avoir, avec la nouvelle majorité, peut-être, les mêmes jeux ou les mêmes gens qui vont non pas changer la façon de pouvoir travailler, mais qui vont rester dans une dynamique de business plutôt que d'une dynamique de rendre service. Là, c'est aussi une question. Alors, la dernière question aussi que vous me posez en disant par rapport au texte, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous en disant, mais oui, effectivement, le texte tel qu'il avait été fait, c'était un texte qui a été fait dans un contexte de sortie de crise. Sortie de crise et de sortie de guerre, je veux dire. Vous vous souvenez que quand même le Congo était divisé en plusieurs parties. On avait le RCD Goma, on avait le MLC, on avait la partie gouvernementale, on avait le RCD KML, etc., etc. Qu'il était important qu'en réunissant tout ce monde-là, qu'il ne faut pas que ce monde-là continue à se battre politiquement. C'est pour ça, entre guillemets, qu'on a essayé d'avoir un cadre large où personne ne peut véritablement avoir le pouvoir sur l'autre, mais qu'il y ait un système de contrôle. Et si maintenant, on peut dire que les institutions sont consolidées, et donc on peut penser changer, réviser cette constitution, réviser certaines dispositions, pour que cette disposition puisse s'adapter au nouveau contexte que nous connaissons. Par exemple, rendre l'équilibre au niveau du régime politique, rendre l'équilibre différemment, peut-être donner plus de pouvoir au président seul, sans le premier ministre, ou bien, comme dans d'autres pays, ça existe aussi,
donner plus de pouvoir au Premier ministre qu'au président. Et donc, il y a plusieurs possibilités, de mon point de vue. Il y a moyen d'avoir un texte qui soit corrigé et qui tienne compte de la situation actuelle telle qu'elle est en train de se présenter, qui, pour ma part, ne cadre pas très très bien avec le texte tel que nous le connaissons.
Crise politique ou crise institutionnelle, nous accueillons d'ailleurs en ligne Ngoyika Sanji, qui est membre du FCC. Monsieur le sénateur, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, monsieur Gilles.
Alors, bonjour, vous êtes le cadre du FCC. Vous venez de tweeter depuis hier que vous soutenez l'Union sacrée pour la nation. Voilà. Est-ce que vous confirmez cela?
Non, c'est pas moi. C'est un piratage. Donc, je n'ai jamais dit ça. J'ai dénoncé ce compte-là qui utilise mes identités. Donc la photo de mon profil pour pouvoir divulguer des faux messages à mon nom.
Alors, hier nous avons assisté à l'installation d'un nouveau bureau au niveau de l'Assemblée nationale. Et est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a vraiment crise au niveau de l'institution Assemblée nationale?
Une véritable crise, parce que ce qui s'est passé hier, vous savez que moi j'ai été attaqué dans la salle de plénière. Donc, M. Kabound est entré avec ses hommes dans la salle qui était préparée pour la plénière d'hier. Et on m'a porté des coups. Donc, sa suite m'a porté des coups en sa présence, en présence de tous les députés. Et tous les députés étaient mis en sécurité, en insécurité. C'est ainsi qu'ils ont évacué la salle. Et ce qui s'est passé hier, c'est un véritable coup d'État.
Est-ce qu'on peut vraiment se permettre une telle crise ou une crise grave comme telle après que qu'on ait sorti des situations difficiles, sorti des crises par le passé, avant 2006, avec une constitution déjà bien élaborée? Est-ce qu'on peut encore avoir une telle crise?
C'est vraiment regrettable ce qui se passe, de voir que l'État aujourd'hui devient impuissant par rapport à une milice bien formée qui a agi hier. Donc, alors que on devait consolider les institutions de la République après une alternance pacifique et civilisée, un exemple pour tous les pays d'Afrique, ce qui se passe aujourd'hui, c'est simplement regrettable.
Est-ce que dans l'Assemblée nationale, la majorité là reste intacte? Parce que nous avons vu le 279 députés hier assister à l'installation du nouveau bureau. Donc on peut dire, on donne raison aux analystes qui disent que la majorité est en train de s'effriter.
La liste elle-même qui a été dont on a parlé, des 279 députés, il n'était pas 279. La liste a été déchirée par les députés de l'UDPS. Donc, depuis avant-hier, il y a eu, ils entrent dans la salle, ils déchirent les listes de présence du député. Hier, il n'y a pas eu de liste. La liste qui a été communiquée, c'est lui qu'on a appelé directeur des séances. Il n'était pas directeur, c'est un agent. Il ne peut pas engager l'administration de l'Assemblée nationale. Donc, c'est tout simplement un coup d'État et tous les chiffres donnés sont faux.
Voilà, merci beaucoup sénateur Ngoyika Sanji d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission. Merci beaucoup d'avoir appelé. Alors Christian, vous êtes à Kinshasa. Bonjour Christian Politesse.
Bonjour.
Quelle est votre contribution dans cette émission, Christian?
Bon, moi je crois que déjà à ce stade, nous pouvons dire que l'Assemblée nationale, c'est en quelque sorte comme une sorte de femme à qui cette personne voudrait aujourd'hui conquérir. C'est en fait la dernière femme à conquérir. Et du coup, chaque parti, les FCC, les CAS, veut en fait jouer les tout pour les tout. Mais sinon, en réalité, aussi, chacune des parties avait vraiment mis de l'eau dans son vin en respectant scrupuleusement les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale. Je crois qu'il n'y aurait pas eu ces genres de dégâts. Il y a eu autant de blessures et tout. Et je crois que Déjà, à ce stade, il va sans dire qu'il y a plusieurs tirages de ficelle. Au-delà, en fait, non seulement ici sur le plan interne, mais aussi sur le plan externe. Et à cela s'ajoute encore la position de la ministre de la fonction publique qui a pris une décision concernant la suspension, allant dans le sens de suspendre le secrétaire général de l'Assemblée nationale. Bon, une suspension qui a été directement contestée par elle, parce que dans les réseaux sociaux, il s'est fuité un audio dans lequel la ministre dit que sa signature aurait été imitée. Mais bon, au-delà de ça, Jérôme Gembo, il y a en fait une certaine sorte de transnationalité de cette situation de la RDC. Si vous regardez aujourd'hui les médias internationaux, déjà hier, le média français disait qu'en fait, il appelait déjà Jeanine Mabunda comme étant l'ancienne présidente de l'Assemblée. Et la position des États-Unis d'Amérique ainsi que du Canada sur les récents discours du chef de l'État est un élément. Donc vous voyez que déjà, en fait, les puissances cherchent à tourner les dos à Joseph Kabila. Et au-delà de ça, en fait, toujours avec le média, vous savez, à l'époque où on cherchait à ce que le président Tshisekedi puisse se séparer avec son allié, il y avait d'autres discours qui alimentaient la toile. Vous avez ces discours de Cohen au lendemain du crash de l'avion du président, de sa logistique. Cohen disait que la sécurité du président n'était pas si forte. En d'autres termes, il voulait dire au président de contrôler lui-même sa sécurité, parce que sa sécurité était entre les mains d'une autre personne. Et aujourd'hui, si vous regardez la position prise par ces grands de personnalités, vous voyez que c'est en quelque sorte un encouragement à Félix Tshisekedi. Et aujourd'hui, déjà, nous pouvons dire que les FCC est le vrai perdant. Et ce n'est que normal que ces genres de déclarations soient en fait au rendez-vous, comme étant qu'il y a des forcings, il y a et tout, et il y a un coup d'État et consorts. Mais ce que nous pouvons aujourd'hui retenir, c'est que la population veut vraiment un changement, la population veut que les choses avancent. Alors si les changements seraient loin du FCC, bon, nous sommes des spectateurs, nous regardons. Si le changement sera avec le FCC, pourquoi ne pas travailler avec eux? Mais sinon, aujourd'hui, la population a exprimé son ras-le-bol contre le FCC.
Merci beaucoup, Christian Politassi. Simon, on va terminer avec vous avant de retrouver notre invité, professeur Bob Kabamba. Vous êtes à Matadi, Simon?
Oui, je suis là. Bonjour à vous, bonjour à l'invité Bob Kabamba. Bonjour à tous les auditeurs qui me suivent. Et je pense que crise, il n'y a pas crise. Que le professeur Bob Kabamba le sache et tout le reste, il n'y a pas crise. Ici, il y a une récupération. Nous sommes en train de faire une opération de récupérer le Congo pris entre les mains des prédateurs d'un empire qui s'est construit en lui seul au Congo pour faire souffrir la population, les Congolais authentiques. C'est ce que nous avons vécu pendant tous ces temps, pendant tous ces 18, ou peut-être 23 ou 24 années. Donc le problème, il n'y a pas une crise. Et vous savez, l'Empire s'est semé vraiment au cœur du Congo. Pour les déraciner, il faut qu'on sorte des muscles de foi pour que les Congos reviennent aux Congolais. Regardez notre économie. On a même dit qu'il n'y a que 600 millions à la Banque centrale pour la République. Le montant qui peut servir d'un budget, d'un quartier de certains pays africains ici. Les Congos, nous sommes dans une situation de non-État. L'État n'existe pas parce que les prédateurs qui ont pris en otage la République démocratique du Congo, sont ces gens-là que la population. Vous avez suivi les discours que j'ai qualifiés de la quinine que le président a donné. Vous avez vu comment les peuples congolais, même dans les fins fonds des villages, il a du moins souri une fois. Donc lorsque nous voulons prendre des mesures, c'est comme je l'avais dit autrefois, on fait comme la République, la 4e République en France. Le passage de la 4e à la 5e République avec Charles de Gaulle. Donc il y a des mesures qu'on est en train de prendre pour rendre le Congo aux Congolais. Cet empire de mafrans qui s'est installé. Vous imaginez, pendant 18 ans par exemple, quel est l'investissement de la République démocratique du Congo en termes d'entreprise. Mais vous verrez parfois les présidents de la République sortant. à plus d'entreprises, à plus investir personnellement que la République qui les payait. Tout ça, vous trouvez ça normal? Les présidents qui arrivent n'ont aucune manœuvre. Même les bois qui passent par ici, c'est FCC. Même les gars, tout ça, des entreprises, les sociétés, tous les ministres, tout ça, c'est FCC. Et il a tous ces biens entre ses mains. Et pour les déboulonner, franchement, il va falloir sortir des muscles.
Donc pour vous, ce n'est pas un coup d'État, c'est une façon simplement de récupérer. Oui.
Nous sommes dans une situation de non-État.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Le débat du juridisme, ce n'est pas encore son temps.
Donc vous pensez que dans le non-État, il faut les biceps pour récupérer ce dont on a perdu. Merci beaucoup. Merci Simon Tiloulou. Alors on revient à vous, professeur Bambamba. C'est vrai, le sénateur Ngoï Kassanji a parlé des coups d'État. Bon, moi j'évoquais plutôt d'une révolution au cours de cette émission. Et Simon Tiloulou, lui, dit ben ce n'est pas un coup d'État, c'est plutôt une récupération de biens que le peuple avait perdus.
Oui, alors là, par rapport à ce que le sénateur Ngoï Kassanji a dit, il a fait état des coups qu'il a reçus de la part des gens au sein de l'Assemblée. Là encore, je le répète, effectivement, là, il peut porter plainte par rapport à ce qui s'est passé et pour qu'il y ait réparation par rapport aux sévices qu'il a subis. Et donc, c'est tout à fait dans son droit de pouvoir porter plainte et de pouvoir arriver à avoir. Alors, il fait état de toute une série de faits qui se sont passés au sein de l'Assemblée. Donc je n'étais pas au sein de l'Assemblée pour savoir exactement ce qui s'est passé. Je n'ai fait que lire ce que les différents médias ont diffusé. Et c'est que de manière, en connaissant, en lisant un peu le règlement d'ordre intérieur, c'est ce que le règlement d'ordre intérieur prévoit. Coup d'État, alors à ce moment-là, je ne sais pas si c'est un coup d'État, du fait que si je lis ce qui s'est passé, au-delà de tous les faits, que je pense qu'il faut nous tous un peu condamner les faits infractionnels qui ont accompagné tous ces événements depuis 48 heures, ça on peut les condamner. Il y a eu de la violence, il y a eu justement, comme j'avais dit tout à l'heure, destruction des biens publics, ce sont véritablement des faits infractionnels. Par contre, par rapport à l'auditeur qui parle en disant que c'est une récupération et que nous sommes dans un non-État, alors là, de manière claire, ça, je ne pense pas qu'on puisse penser à aller dans ce sens-là, pour la bonne et simple raison que le chef de l'État lui-même parle de l'État de droit, de l'installation d'un État de droit. Si nous sommes dans un non-État, il faut ramener la RDC à être un État qui est régi par des textes, et c'est des textes qui soient respectés par les uns et les autres. Ça, c'est vraiment fondamental. Si nous sommes dans un non-État, alors là, on laisse le choix et le libre champ à tout le monde pour faire tout et n'importe quoi. Alors ici, comme je l'ai dit en disant de non qu'il n'y a pas crise, mais j'ai bien précisé qu'il y a crise politique, mais j'ai expliqué en quoi c'est une crise politique, puisqu'il s'agit des actions politiques par rapport à deux familles politiques essentiellement, dans le cadre de contrôle d'une institution. C'est pour ça que j'ai parlé de crise politique et pas encore de crise institutionnelle. J'ai bien expliqué comment on peut parler de crise institutionnelle. Et donc ici, clairement, nous sommes dans une crise politique. On va voir, après une crise politique, on va voir qui va sortir gagnant de cette crise. Est-ce que ce sera la population? Est-ce que ce sera les hommes politiques, businessmen, comme disait l'autre auditeur? Ça va être l'avenir qui nous le dira. Mais avec les différents enjeux que l'on a actuellement, c'est-à-dire la sécurité à l'Est, les problèmes économiques, les problèmes du Covid, les problèmes d'Ebola, etc., toute une série de problèmes qui sont des problèmes sérieux, des défis immenses, je pense que véritablement qu'il va falloir avoir encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour que l'on puisse voir la situation de la population.
Voilà, professeur, on va terminer avec vous, mais juste, on va faire un exercice d'interpréter la phrase de Madame Leïla Zerougui qui dit « Le pays, la RDC donc, ne peut pas se permettre de crise institutionnelle grave ». Comment interprétez-vous cela?
C'est une menace de la communauté internationale. Ça veut dire que s'il y a une crise encore beaucoup plus grave que ce que nous sommes en train de connaître, nous risquons d'avoir la situation qu'on a eue en 2006, c'est-à-dire pratiquement une mise sous tutelle du Congo par la communauté internationale.
Est-ce que la situation du Congo-Brazza, comme le redoutent déjà certains Congolais, ne sera pas se répéter?
la situation du Congo-Brazza peut se répéter. Ce sont, comme je vous l'ai expliqué même tout à l'heure, en disant qu'il y en a qui veulent pas faire de la politique avec des actions civiles, il y en a qui veulent faire de la politique avec des armes, comme les Maïmaï à l'est du pays, qui font la politique avec des armes.
Professeur Bob Kabamba, chercheur à l'Université de Liège, merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir accepté d'interagir avec l'ensemble des auditeurs, des paroles aux auditeurs, ici au pays et à l'étranger. À très bientôt, professeur.
Merci.
Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Jacques-Claude Tiala et Marcel Ngombombala ont concouru à la production de cette émission coordonnée et présentée par J.R. Lungembo Luabung Anji. On se retrouve avec vous demain dans un autre numéro des paroles aux auditeurs. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur la fréquence de la paix.